Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Marco Lery, dont Nicolas Sendé, réalisée par Anna Olvec et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Journée spéciale donc sur France Culture, journée consacrée aux problématiques liées à l'éducation, émancipation générale, les combats pour l'éducation en ce jour de rentrée, premier jour de classe après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Nous avons choisi ce matin de nous pencher sur la question de l'accès à l'éducation pour les migrants mineurs. De la France à l'Allemagne, quel accès à l'école pour les enfants migrants? C'est la question qu'on se pose ce matin.
Moi, depuis que je suis à Marseille, ça fait 9 mois comme ça, ça va venir maintenant. Je parlais français depuis en Guinée parce que c'est France qui a colonisé la Guinée quand même.
J'ai pas de pays, moi.
Il y a des jeunes qui ont été scolarisés quand même dans leur pays, d'autres qui n'ont pas du tout été scolarisés. Ce sont ceux-là pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que depuis cette année, on a mis en place un dispositif qui permet de donner à ces jeunes-là ce qu'on appelle nous les savoirs fondamentaux pour apprendre le français à des jeunes qui ne maîtrisent pas du tout.
C'est un gros problème pour nous car elle est en CE2. Et ça fait maintenant 2 mois qu'elle ne va plus à l'école.
Nous leur donnons des cours de langue, de mathématiques. Il y a des parents qui viennent nous aider pour l'anglais. On essaie de faire un peu de chaque matière pour qu'ils puissent très vite rejoindre une classe normale.
Voilà, on entendrait à l'instant de jeunes primo-arrivants établis à Marseille et leurs professeurs qui s'exprimaient au micro de Lénora Krief à propos de leur scolarité dans le lycée professionnel du quartier de la Castellane, extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur France Culture en avril dernier. Et puis, on entendait également Azam et sa famille expliquer au micro de France 24 que sa jeune fille a besoin de retourner à l'école. On entendait également son institutrice, donc allemande, en charge de sa classe d'intégration. Après l'incendie du camp de Moria en Grèce le 9 septembre dernier, qui avait laissé près de 12 700 personnes sans abri, dont 4000 enfants, l'Allemagne et la France s'étaient portées volontaires pour accueillir des migrants mineurs isolés. Mais après l'élan de solidarité, il faudra regarder comment ces enfants seront accueillis et comment ils seront intégrés au système éducatif. En effet, le droit à l'éducation est inscrit dans divers traités nationaux et internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais la confrontation entre ce droit et sa mise en pratique révèle parfois de nombreux obstacles et les conditions d'une bonne intégration à l'école ne sont pas toujours réunies. Alors quels sont les dispositifs mis en place en France et en Allemagne pour permettre aux enfants migrants d'accéder à l'éducation? Permettent-ils aux élèves de s'intégrer rapidement au système traditionnel et à plus long terme à la société? Et d'ailleurs, ces dispositifs sont-ils les mêmes sur l'ensemble du territoire ou au contraire, observe-t-on d'importantes disparités et donc in fine peut-être des inégalités entre les élèves primo-arrivants? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Maïtena Armagnac-Roucher, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Alors, c'est un peu comme tous mes petits camarades de France Culture et de l'ensemble des chaînes de Radio France. Vous êtes avec nous, mais par le truchement des ondes. Donc, je vous remercie infiniment d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés de l'Université Paris Lumière. Merci d'être avec nous ce matin. Également, à distance, également, Werner Wettelmeyer. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci infiniment également d'être avec nous. Vous êtes enseignant à l'université Sergi Pontoise, un spécialiste de l'Allemagne et en particulier de son système éducatif. Ça tombe bien parce qu'on va essayer de faire un jeu de miroir entre ce qu'il se passe chez nous ici en France et ce qu'il se passe du côté de l'Allemagne s'agissant de cette nécessaire, indispensable intégration des enfants migrants dans le système éducatif. D'abord, je le rappelais, Maïtena Armagnac-Roucher, le droit à l'éducation, il est inscrit dans le droit international au moins depuis la Déclaration universelle de 1948, mais en réalité, il existait déjà dans le droit français. C'est depuis quand ?
Oui, tout à fait. Il existe de façon tout à fait formelle depuis les lois Ferry des années 1880, 1882 plus précisément. Et comme il était aléatoirement appliqué sur le territoire français, notamment dans le nord et l'est de la France à cette époque-là, le Front populaire, par une loi du 9 août 1936, a explicitement mentionné l'obligation scolaire pour les enfants étrangers sur les territoires français.
Même chose du côté de l'Allemagne, Werner Zettelmeyer, il existe depuis longtemps dans le droit allemand.
Le problème, c'est que l'éducation en Allemagne ne relève pas d'une compétence nationale, mais c'est les Länder, donc les régions, en fait, qui sont compétentes en la matière. Mais on peut dire que c'est à peu près comparable à la situation française, en tout cas depuis 45, depuis plutôt 49, l'existence de la République fédérale. Il y a obligation scolaire des enfants à partir de 6 ans. Et donc les enfants issus de l'immigration en font partie.
On reviendra justement sur peut-être ces disparités, parce qu'il existe en Allemagne, on va le voir, un dispositif fédéral, mais en réalité, les choses varient beaucoup en fonction du Länder dans lequel on se trouve. Alors commençons peut-être par la France, Maïté Narmaniag-Rouché, ce qui nous permettra peut-être aussi d'améliorer un tout petit peu notre connexion avec vous, Werner Zettelmeyer. En France, on a, Maïté Narmaniag-Rouché, un dispositif qu'on appelle UPE2A, pour Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? On va évidemment prendre un peu de temps pour décrire tout ça, mais en gros, nous expliquer le parcours qu'on doit effectuer pour scolariser un élève primo-migrant qui arrive en France.
Oui, alors en fait, le parcours de scolarisation est différent selon l'âge de l'enfant et selon que l'enfant dépende de par son âge du premier ou du second degré dans le système éducatif français. Dans le premier degré, les choses sont finalement relativement simples et assez rapides en termes de temps de scolarisation. L'enfant et ses représentants légaux se rendent dans les municipalités, dans les services dédiés, qui généralement affectent et orientent l'enfant vers une école qui dispose de ce type de dispositif ou de soutien linguistique. Donc l'enfant et ses représentants vont ensuite se rendre dans l'école, rencontrer le chef d'établissement et l'enseignant du premier degré qui fera passer un test de positionnement scolaire en langue française et dans les disciplines fondamentales, notamment en mathématiques. Et assez rapidement, du coup, l'enfant sera scolarisé dans ce dispositif et rattaché à une classe ordinaire. Donc il rencontrera son enseignant de dispositif assez rapidement dans son parcours éducatif.
Et pour ce qui est du collège,
dans le second degré, les choses... Voilà. Alors dans le second degré, à partir du collège, les choses sont un petit peu plus longues, puisque donc de par les lois de décentralisation, les mairies n'ont pas du tout les mêmes compétences sur les établissements scolaires. Donc les enfants vont en fait être d'abord orientés soit vers les CASNAVs, les centres académiques pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés et des enfants de familles itinérantes et du voyage, soit vers les CIO, les centres d'information et d'orientation. Là, ils vont être en contact avec des référents qui vont organiser des sessions de tests, soit lors de cellules d'accueil, dans les CIO, soit dans des établissements scolaires. Et à l'issue de ces tests, des enseignants vont expliquer aux enfants et à leurs représentants légaux la probabilité de scolarisation à venir. Mais cette probabilité de scolarisation reste dépendante d'une étape supplémentaire par rapport au premier degré, qui est celle du passage vers des services départementaux d'affectation des élèves dans les établissements, qui vont ensuite notifier une décision d'affectation, ce qui peut prendre plus ou moins de temps selon les territoires, avant que l'enfant puisse être accueilli dans l'établissement.
Ça concerne combien d'enfants environ aujourd'hui?
Alors, en tout aujourd'hui, les dernières données que l'on a en France, donc datent de la toute fin décembre 2019, on a 64 350 enfants qui sont concernés. En plus de ces enfants, il faut ajouter à peu près 2000 enfants qui sont pris en charge, donc souvent entre 16 et 18 ans, par les missions de lutte contre le décrochage scolaire. Et il y a près de 2400 enfants qui sont en attente d'affectation.
Alors, regardons peut-être du côté de l'Allemagne maintenant avec vous, Werner Zettelmeyer. Vous le disiez, il y a un dispositif fédéral, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui dépendent des Länder. Les dispositifs sont fédéraux, mais l'application dépend des régions. C'est géré en l'occurrence par les collectivités territoriales, que ce soit d'ailleurs l'aspect pédagogique ou l'aspect financier. On va avoir le temps d'y revenir. Mais à l'arrivée, il se passe une chose, c'est qu'on a une très grande disparité dans le processus d'intégration à l'école. De ces jeunes migrants, par exemple dans la région de Berlin ou de la Sarre, ils sont automatiquement envoyés à l'école, alors que dans les autres Länder, Ils doivent d'abord déposer une demande d'asile et obtenir un titre de séjour. On imagine que ça crée de nombreuses disparités entre les régions. C'est-à-dire que on imagine que les migrants vont aller prioritairement, précisément dans ces régions où il est plus facile d'être scolarisé. Werner Zettelmeyer, c'est le cas ?
Non, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque le choix de domicile n'appartient pas aux migrants. C'est-à-dire, quand ils arrivent en Allemagne, il y a l'institution qui s'occupe de l'accueil, à savoir ce qui correspond à peu près à l'OFPRA en France, et qui répartit les migrants en fonction des disponibilités sur les différents lenders, et chaque land a un quota d'accueil. Il est clair que les lenders qui sont fortement peuplés, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie, prend la majeure partie. Et puis d'autres lenders comme la Sarre, qui est l'un des lenders les plus petits, en prend une petite partie seulement. C'est-à-dire le choix n'appartient pas aux familles, mais le choix est fait par ce qui correspond à l'OFPRA en fonction des disponibilités. Et on peut dire que, en gros, la plupart des réfugiés se trouve plutôt à l'ouest du pays, et dans les lenders de l'est, qui sont plus faiblement peuplés, il y a une petite partie des réfugiés, à peu près 16%, alors que donc la majorité est à l'ouest, dans les anciens lenders.
Quand l'Allemagne a ouvert ses portes en 2015, il y a eu une arrivée massive de migrants, et en particulier d'enfants. Est-ce qu'il a fallu changer un peu les choses, adapter les choses, monter en puissance pour que le système éducatif allemand ne soit pas saturé, ou en réalité on a pu gérer tout cela avec le système préexistant?
Eh bien, c'est bien sûr difficile à dire, puisque en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en depuis 2015, il y a à peu près 300 000 jeunes, un peu plus de 320 000 jeunes à peu près, qui sont arrivés et qu'il a fallu scolariser. Donc vous imaginez bien qu'avec cette arrivée massive, dans un premier temps, en tout cas en 2015 et même aussi en 2016, tous les services administratifs, mais aussi les écoles, les établissements scolaires étaient bien sûr très très challengés, comme on dit, et il a fallu parfois improviser, augmenter bien sûr en puissance les capacités d'accueil, embaucher des enseignants et débloquer des fonds nécessaires pour encadrer et pour faire avec.
Mais ça a suffi, parce que vous dites 320 000. Moi, j'ai vu le chiffre de 325 000 nouveaux écoliers pour l'année 2015. Ça veut dire des centaines et des centaines de professeurs qu'il faut quand même solliciter quasiment du jour au lendemain.
Oui, mais on n'a pas pu recruter du jour au lendemain. On estime que qu'il était nécessaire d'embaucher à peu près 20 000 enseignants, mais on n'a pas pu les embaucher tout de suite en septembre 2015. Il y a effectivement des recrutements massifs qui sont intervenus dans les années qui ont suivi. Il y a aussi, bien sûr, d'autres adaptations qui ont été nécessaires, mais en règle générale, il y a déjà une petite expérience avec l'accueil des enfants issus de l'immigration qu'on a depuis les années 60 et 70, surtout 70 et 80, c'est-à-dire dans les écoles, surtout dans les centres urbains, dans les centres d'agglomération, on a créé des classes d'accueil ou des classes d'intégration, enfin plutôt d'accueil que d'intégration, et c'était des classes qui étaient en fait dédiées à des enfants étrangers. Le problème, c'est que ces classes réservées en quelque sorte aux étrangers n'ont pas forcément fait leurs preuves, et il a fallu à partir de 2015 ou plus tard, mais même déjà avant, réinventer et reconfigurer le principe de l'intégration à l'école, car les classes pour les étrangers avaient tendance à s'autonomiser en quelque sorte et à devenir aussi des classes un petit peu à part et qui ne permettaient pas à terme une intégration réussie.
Ouais, alors donc, on va revenir justement sur ce point, peut-être sur cette articulation avec le système éducatif, j'allais dire traditionnelle, je mets évidemment des guillemets, mais là encore, si on fait ce jeu de va-et-vient entre la France et l'Allemagne, Maïtena, Armagnac, Rouget, on dit souvent, évidemment, que l'une des grandes différences entre le système français et le système allemand, c'est que l'un est très centralisé alors que l'autre est très décentralisé. C'est vrai, et en même temps, chez nous aussi, les choses ne sont peut-être pas aussi homogènes qu'on pourrait le penser, parce que le dispositif, il est national, vous nous l'avez décrit, mais dans les faits, son application dépend énormément de la région. C'est ce que montrent par exemple les recherches qui avaient été menées par Migriti et Evascol, qui portaient sur les académies de Bordeaux, de Créteil, de Montpellier et de Strasbourg dans 8 écoles primaires et 8 collèges de 2014 à 2017. Et on voit qu'il y a une très forte disparité territoriale.
Oui, tout à fait. En fait, quand il s'agit d'inclusion scolaire des élèves qui sont désignés comme étant un besoin éducatif particulier, la dimension organisationnelle, donc celle des établissements, est décisive. En outre, il y a certes entre le niveau de l'établissement, le niveau organisationnel et le niveau national, toute une série en fait de strates d'interprétation des décisions qui vont aussi produire des configurations locales très différentes. Tout en haut, le texte national qui est une circulaire de 2012 sur l'inclusion scolaire des élèves allophones. Cette circulaire a ensuite été déclinée par des circulaires départementales. Et entre ces circulaires départementales et cette circulaire nationale, les politiques académiques qui vont organiser des pratiques de scolarisation relativement différentes, avec dans certains territoires un très grand nombre de dispositifs, des dispositifs offrant un très grand nombre d'heures de soutien à chaque élève, et dans d'autres territoires, très peu de dispositifs, et des dispositifs, quand ils existent, qui offrent très peu d'heures de soutien à chaque élève. Donc effectivement, ça n'est pas du tout la même chose si l'on est un élève allophone nouvellement arrivé en Dordogne et si l'on est le même élève en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine.
Et s'agissant de la manière dont ces classes s'intègrent au reste, j'allais dire, du système éducatif, il y a des professeurs qui travaillent dans ces fameuses unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, qui regrettent visiblement que leur classe se retrouve un peu à la marge des établissements dans lesquels ils sont accueillis. Comment s'illustre cette mise à la marge ?
Alors, historiquement, cette mise à la marge n'est pas récente non plus. La France accueille des enfants étrangers sur son territoire depuis la seconde moitié du 19e siècle, avec dès 1924 et la conférence franco-polonaise des enseignements en langue et civilisation et culture d'origine. Dès 1970, la généralisation des classes d'initiation pour les élèves non francophones dans le premier degré et quelques années plus tard dans le second degré. Donc là, on a à cette époque-là, donc pendant la période de prospérité économique dites des Trente Glorieuses, on a des dispositifs qui sont extrêmement fermés, qui sont très relégués aussi parfois, avec des salles un peu au fond des établissements scolaires. La circulaire de 2012 avait aussi pour effet de désenclaver ces dispositifs-là. En rattachant chaque élève
juste
à une classe
pour les auditeurs, la circulaire de 2012, c'est le moment où on va créer précisément ces unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants, en remplacement des classes d'accueil, les CLA, et la classe d'initiation pour non francophones, les CLIN, voilà.
Tout à fait, avec comme différence fondamentale ce dispositif UPE2A n'est plus une classe, donc l'enseignant n'est normalement pas le seul enseignant que l'élève doit voir. L'élève est rattaché administrativement à une autre classe, normalement, et le nombre d'heures de soutien est beaucoup moins important par semaine, et il dure également moins longtemps dans le temps. Ces nouveaux dispositifs sont limités à une année dans le temps.
Quand vous dites normalement rattachées, est-ce qu'il faut comprendre que dans les faits, elles ne sont pas forcément précisément rattachées à une autre classe et que les projets justement communs sont difficiles à mettre en œuvre ?
Alors, le rattachement administratif, il a lieu. Le rattachement social et pédagogique à la classe entre guillemets ordinaire, il est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et notamment, là, on a des effets très ambivalents, des dispositifs avec très peu de choses automatiques, avec des dispositifs qui offrent beaucoup d'heures de soutien et qui arrivent à être en même temps extrêmement inclusifs, et des dispositifs qui offrent beaucoup d'heures de soutien et qui, du coup, s'enferment aussi dans certaines formes d'enseignement en parallèle, même si d'un point de vue administratif, l'élève est bien rattaché à une classe ordinaire.
Oui, donc une forme de ségrégation spatiale directement dans les espaces, dans les établissements, mais aussi pédagogique. Du côté de l'Allemagne, Werner Zettelmeyer, comment ça se passe? Est-ce que là aussi, il y a des classes, j'allais dire, à part, et en réalité, on a des processus d'apprentissage parallèles, ou est-ce qu'on essaye quand même de créer des ponts avec les classes traditionnelles pour, in fine, justement, intégrer ces enfants migrants dans le système normal, je mets des guillemets évidemment, Werner Zettelmeyer.
Oui, tout à fait. L'expérience des années 70 et 80 n'était pas forcément celle qu'il fallait reproduire. Et donc on a essayé de mettre sur place un système qui permette une intégration du moins partielle. C'est-à-dire les enfants qui arrivent ont bien sûr d'abord besoin d'apprendre l'allemand pour pouvoir suivre l'enseignement dans une classe ordinaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que la plupart des enfants sont accueillis dans des classes préparatoires, mais certains enseignements sont dispensés dans des classes ordinaires, par exemple la musique, les arts, le sport et parfois aussi les maths. Mmh. Donc, les enfants sont à la fois, en tout cas au début, beaucoup entre eux, avec d'autres étrangers, enfin d'autres enfants réfugiés, mais ils peuvent aussi avoir un contact assez régulier avec leurs camarades allemands, dans les cours d'expression artistique ou musicale, et surtout de sport, parce que le sport, c'est bien sûr toujours un vecteur très important d'intégration, à la fois à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Mmh. Et on espère qu'au bout d'un an ou deux ans plus tard, on pourra scolariser les enfants ainsi préparés dans des classes ordinaires. Le problème, c'est bien sûr, même au bout d'un an ou de deux ans, certains enfants ont besoin encore de cours de soutien et doivent bénéficier d'un accompagnement, d'un encadrement en plus de l'enseignement dispensé dans les classes normales.
Et il est prévu cet accompagnement?
Ça dépend bien sûr de l'engagement et de la configuration de chaque établissement. Il y a des établissements qui doivent accueillir beaucoup dans les zones urbaines, et puis il y en a d'autres dans les zones rurales où il y a très peu de jeunes issus de migration ou des réfugiés. Et là, on peut intégrer beaucoup plus facilement, plus rapidement, les enfants dans les classes ordinaires. Mais la situation est très hétérogène sur le territoire, en fonction aussi donc de l'engagement et de l'équipe pédagogique, en fonction du land et en fonction du nombre de réfugiés.
Mais au-delà de cette question de l'engagement, évidemment, des équipes pédagogiques, est-ce qu'il existe un programme commun, fédéral, pour l'ensemble de ces classes-là? J'entends qu'il y a évidemment dans son application bien sûr des différences, mais est-ce qu'il y a des acquis à atteindre qui seraient communs? Est-ce qu'il y a peut-être des méthodes d'apprentissage aussi vis-à-vis de la langue qui seraient communs ou pas du tout?
Il y a bien sûr du matériel didactique, il y a bien sûr aussi un objectif, à savoir intégrer le plus rapidement possible les enfants dans les classes ordinaires. Il y a le niveau B1 qui doit être acquis pour intégrer une classe ordinaire. Mais je me répète un petit peu, il n'y a pas de compétence nationale en matière d'éducation. C'est-à-dire, il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale en Allemagne, et donc à Berlin, où Berlin ne peut pas décider d'un programme ou d'une forme. Ça revient aux 16 Länder. Il y a bien sûr une concertation, il y a une coopération, il y a des projets pilotes, il y a des benchmarks, mais chaque Land est souverain dans ses décisions. Ce qui n'exclut pas qu'il y a des échanges de bonnes pratiques,
ouais,
c'est clair.
Maïtena Armagnac-Roucher, du côté de la France, s'agissant des UPE2A, on pourrait penser, parce que nous avons un ministère de l'éducation nationale, et pourtant il n'y a pas de programme formel pour ces unités pédagogiques qui accueillent les enfants migrants.
Non, il n'y a pas de programme en termes de contenu scolaire parce que formellement, les élèves qui sont dans ces dispositifs sont rattachés à leur classe ordinaire. Donc le programme qui doit s'appliquer pour chaque élève est différent selon l'âge de l'élève et selon sa classe de rattachement. Dans ces dispositifs, par exemple, au collège, vous allez avoir des enfants d'âge 6e et des enfants d'âge 3e qui vont être ensemble pour des enseignements, par exemple en français, langue de scolarisation. Mais le programme pour l'enfant de d'âge 3e, s'il a été évalué scolairement de niveau 3e, sera celui de la 3e générale ordinaire. Et même chose pour le camarade de 6e. Donc, du coup, il n'y a pas de programme. L'idée était de désegmenter justement ces classes. Après, il y a là aussi, pour ce qui concerne l'apprentissage de la langue française, du matériel et des outils didactiques en français langue seconde, français langue de scolarisation. Il existe aussi des cadres pédagogiques de bonnes pratiques, notamment certains CASNAV organisent de la formation continue qui permet aux enseignants donc référents de ces dispositifs dans le premier et dans le second degré de mutualiser leurs pratiques, d'être également formés, hein, et pas que en sciences du langage ou en didactique de la langue française, mais aussi dans d'autres enseignements. Donc il y a ce cadre pédagogique, mais d'un point de vue des contenus, des programmes officiels, chaque enfant est censé dépendre du programme de sa classe d'âge et de sa classe de référence.
Je rappelle hein, pour les auditeurs, CASNAV, il y a beaucoup d'acronymes évidemment, mais on va les décrire à chaque fois. Hein. Oui. CASNAV, c'est donc ce centre académique pour la scolarisation des enfants allophones, nouvellement arrivés, des enfants des familles itinérantes et de voyageurs. Voilà ce que ça veut dire, CASNAV. C'est le centre par lequel il faut passer pour faire ce bilan de compétences avant d'être intégré justement dans le système éducatif. Du côté de l'Allemagne, Werner Zettelmeier, l'une des différences aussi qu'on souligne très régulièrement entre la France et l'Allemagne, c'est la place des filières d'apprentissage. On dit beaucoup qu'elles sont beaucoup mieux développées en Allemagne et surtout qu'elles sont moins dénigrées, qu'elles sont beaucoup plus valorisées en Allemagne qu'en France, même si c'est vrai que ces dernières années, il y a des progrès qui ont été faits s'agissant de la France. Mais quelle place tiennent ces filières d'apprentissage dans les parcours scolaires de ces élèves primo-migrants? Est-ce qu'elles constituent des formations particulièrement empruntées par ces jeunes migrants arrivés en Allemagne depuis 2015 maintenant?
Quand il s'agit de l'apprentissage, bien, on a bien sûr affaire à des jeunes déjà d'un âge plus avancé, à partir de 16 ans et plus. Là, le problème aussi, c'est bien sûr d'abord l'apprentissage de la langue, et on ne peut pas intégrer un jeune de 17 ans, de 16 ans ou de 18 ans qui vient d'arriver dans une entreprise ou dans l'enseignement professionnel. Là aussi, il y a une période transitoire qui va permettre aux jeunes d'avoir un minimum A2 ou B1 pour pouvoir suivre correctement cette formation. Mais effectivement, il y a un effort qui est fait par les entreprises et par les chambres de commerce, par exemple, pour accueillir les jeunes de cet âge, à partir donc de 16 ans, le plus tôt possible, le plus rapidement possible, dans les formations d'apprentissage. Mais on peut, là aussi, c'est pas une règle générale, parce que les entreprises se sont investies beaucoup. Les grandes entreprises, par exemple, ont créé des dispositifs de stage de 6 mois, par exemple, permettant à ces jeunes de se familiariser à la fois avec le côté technique d'un métier, par exemple, mais aussi de façon générale avec le fonctionnement d'une entreprise en Allemagne. L'alternance, donc l'apprentissage, l'alternance permet effectivement à certains jeunes de s'intégrer plus rapidement, à condition qu'ils aient quand même aussi le minimum linguistique pour pouvoir suivre à la fois le côté théorique dispensé par l'école et aussi de comprendre leur tuteur, leur maître d'apprentissage, qui leur explique comment il faut faire. Mais il est vrai, l'apprentissage peut être un vecteur intéressant, important, pour les jeunes qui ont l'âge d'entrer à l'apprentissage, et s'ils, bien sûr, s'ils veulent. Mais il y en a aussi des jeunes qui veulent intégrer l'université. Et on sait, par exemple, qu'il y a à peu près 30 à 40 000 jeunes, enfin, c'est les moins jeunes, bien sûr, et qui doivent avoir le bac, et parfois qu'ils ont déjà fait des études dans leur pays d'origine, et qui essaient de continuer leurs études supérieures en Allemagne.
Oui, la langue, c'est évidemment toujours le succès de l'intégration. Vous parliez de l'engagement des entreprises, de l'engagement des équipes pédagogiques, mais il faut aussi mettre dans le paysage la question des bénévoles qui sont particulièrement présents du côté de l'Allemagne. On va écouter d'abord un témoignage, justement, pour essayer de mesurer l'importance de ce tissu associatif, et puis on en parle tout de suite.
Les paroisses sont dépendantes des bénévoles en général et ont donc des structures bénévoles déjà constituées qui pouvaient aider. Les gens étaient prêts à aider, c'est pour ça que la ville de Bonn les a laissés gérer. Il n'y avait encore que peu de structures, peu de travailleurs sociaux, peu de personnes pour aider les réfugiés, les capacités étaient limitées. Les bénévoles devaient donc se lancer et c'est ce qu'ils ont fait.
Voilà, on entendait notamment donc cette travailleuse sociale qui est un témoignage qui a été recueilli au micro d'Euronews. Werner Zettelmeyer, cette place justement de ce tissu associatif, de ces associations, il semble qu'elle soit très importante du côté de l'Allemagne, dans le système scolaire allemand. Jusqu'où est-ce qu'il est sollicité? Aidez-nous justement à comprendre. Et pourquoi au fond ces associatifs sont particulièrement engagés? Est-ce que c'est lié à un altruisme qui serait propre à la culture allemande? Est-ce que c'est le fait qu'on a en fait une certaine défaillance de l'institution éducative allemande et que donc il faut la combler et que c'est par le truchement de ces associations qu'on le fait? Comment se fait-il qu'elles aient la place qu'elles ont aujourd'hui?
Je ne sais pas si c'est un trait spécifique à la culture allemande, ça dépend de ce qu'on entend par la culture, mais il est vrai que le tissu associatif a toujours eu un rôle très important, y compris au sein de l'établissement, au sein des établissements scolaires. Lorsqu'en 2015, 1 million de réfugiés sont arrivés en Allemagne, il est clair qu'il y avait un engagement très important de bénévoles et qui voulaient aider, parfois avec une très, très forte motivation, mais qui ne savaient pas non plus comment faire. Mais cet engagement du tissu associatif est fondamental, car il est clair que l'intégration, que ce soit à l'école ou que ce soit aussi tout simplement des familles, des parents de ces enfants, ne peut réussir que s'il y a un accompagnement, un encadrement ou un parrainage par des personnes autres que des enseignants ou des responsables administratifs dans les collectivités territoriales ou dans ce qui correspond à l'OFPRA. Et donc, le bénévolat ou cet engagement, dans l'interview, on a entendu parler des paroisses, mais il y a aussi d'autres associations qui sont engagées, les associations sportives, par exemple, parfois aussi même des gens qui font autre chose pendant leurs loisirs, car l'intégration, c'est un tout, hein. C'est-à-dire on a par exemple dans certaines communes inventé le système d'un parrainage linguistique, c'est-à-dire ce sont très souvent des bénévoles qui l'après-midi ou le soir aident les jeunes, les moins jeunes à se débrouiller avec les devoirs ou à les accompagner dans les démarches administratives dans les collectivités, etc.
Et est-ce que cette mobilisation justement depuis 2015 s'est un peu essoufflée?
Oui, tous ceux qui se sont engagés en 2015 ne sont pas restés, puisque c'est quand même psychologiquement assez important. Et il y a aussi certainement des frustrations. Mais je pense qu'un noyau dur est resté. Et de façon générale, il faut savoir que l'école, même avant 2015, n'était pas, comment dirais-je, un sanctuaire comme il est présenté très souvent en France. On n'a pas la même histoire culturelle et sociale en Allemagne et en France. Et donc, il y avait toujours un engagement de la part du tissu associatif au sein des établissements. De toute façon, puisque historiquement, l'école allemande est plutôt une école qui fonctionne le matin seulement. Maintenant, il y a aussi des cours l'après-midi. Et donc, l'après-midi, les enfants étaient très souvent dans le tissu associatif, que ce soit pour le sport, pour la musique ou pour autre chose. Et donc, il y a un rôle historique, en quelque sorte, des associations. Même si on constate bien sûr qu'il est bon que les enfants, surtout les réfugiés, soient encadrés le plus longtemps possible dans le cadre scolaire, mais les parents ou ces associations viennent aussi à l'école, aident pour les devoirs par exemple, et surtout les associations ont un rôle fondamental dans le dialogue avec les parents des jeunes, car les parents qui viennent de Syrie ou d'Irak ou d'autres pays ne connaissent pas forcément le ils ne peuvent pas connaître les systèmes éducatifs allemands, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et donc là, les parents, les associations ont un rôle fondamental à jouer.
Et alors, du côté de la France, Maïtena Armagnac-Rouchet, quel rôle on leur donne, quelle place on leur laisse précisément à ces associations dans ce processus d'intégration des enfants dans le système scolaire? Est-ce que cette place est aussi importante qu'en Allemagne? Est-ce que on rechigne un petit peu d'une certaine manière et on préfère que l'institution, avec un grand I, conduise, pilote tout cela? Quelle place on leur fait?
Alors, historiquement, c'est sûr que les corps intermédiaires n'ont pas, en France, particulièrement dans le domaine de l'éducation, la même place qu'en Allemagne. Et il y a notamment eu aussi toute une série de productions scientifiques qui ont montré les relations parfois compliquées entre certaines institutions scolaires et certaines familles, notamment de milieux populaires. Les enfants de familles migrantes pouvant en faire partie. Après, au-delà de ça, alors c'est vrai que l'éducation nationale prend en charge l'essentiel d'une journée pour un enfant, du matin 8h, 8h30 au soir 16h et bien souvent plus tard. Donc l'État est beaucoup plus central et ça produit chez l'ensemble des citoyens de ce pays qui sont passés par cette institution un rapport à l'État très différent de celui que l'on peut observer en Allemagne et donc en conséquence des conduites d'auto-organisation qui sont aussi moins encouragées et qui sont de fait moins importantes. Cela étant, en face de la contradiction qui existe entre, d'une part, des politiques d'accueil scolaire formellement extrêmement accueillantes et, d'autre part, des politiques migratoires qui ne sont pas aussi accueillantes, en face aussi des importants défauts de moyens de la part des acteurs de l'institution de l'éducation nationale, on assiste quand même à toute une série de mobilisations de la part de certaines associations et du secteur associatif, alors historique, Réseau Éducation Sans Frontières, mais aussi des associations qui se sont construites, notamment dans les territoires qui n'étaient pas dans d'anciens territoires d'immigration, justement pour soutenir la scolarité, avec des familles d'accueil spontanées, qui ne sont pas du tout forcément légales, qui vont accueillir des enfants, avec des associations qui historiquement s'occupaient de soutien scolaire de difficultés, qui récemment se sont recentrées vraiment sur l'accueil des primo-migrants, avec par exemple des bénévoles qui vont alors il y a les paroisses catholiques, il y a les réseaux d'entraide protestants, il y a aussi des associations complètement laïques qui vont venir par exemple dans les tests de positionnement avec les enfants, notamment quand il s'agit de mineurs non accompagnés. Donc on les voit qui commencent à s'engager, notamment parce qu'il y a toute une série de vides qui sont laissés.
Peut-être une dernière question avant de nous pencher vers la Suède, qui est un cas très intéressant. On va accueillir dans un instant Véronique Simone, mais il y a une question qui est très importante et qui est de particulièrement prégnante en ce moment, j'allais dire, parce que évidemment l'école, on le sait, a un rôle fondamental dans la transmission d'un certain nombre de normes sociales et politiques, et avec cette crispation qu'on connaît aujourd'hui et en France et en Allemagne, crispation identitaire, avec ce terrorisme islamiste qui inquiète et que l'on associe irrémédiablement dans un amalgame abusif à la question migratoire, il y a des questions qui se posent et auxquelles doivent répondre les écoles, que ce soit en France et en Allemagne, parce que l'école, c'est aussi un endroit où on doit transmettre un certain nombre de valeurs, de liberté, de démocratie. Vous parliez tout à l'heure de laïcité. Qu'est-ce qu'on fait précisément à l'école française et allemande pour inculquer ces valeurs des pays d'accueil à ces enfants migrants précisément? Maïtena Armagnac-Rouchet, puis ensuite on posera la question pour l'Allemagne à Werner Zettelmeier.
Alors, si la question c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est pas tout à fait la même que qu'est-ce qu'on devrait faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Là encore, c'est assez différent selon les territoires. Il y a des territoires où moi j'ai vu des professeurs de lettres enseigner les lettres classiques avec des enseignements de d'auteurs par exemple humanistes, surréalistes. Même chose pour les enseignements en arts plastiques. C'est une façon aussi de montrer le sens de la démocratisation auprès d'un public scolaire qui est très hétérogène. Après, comment est-ce que les enseignants s'y prennent ? Ils sont relativement démunis parce que l'enseignement, ça n'est pas une question politique il dépend normalement de la science et de la connaissance produite, et ces questions-là ne sont pas des questions politiques. Et moi, j'ai beaucoup d'enseignants de dispositifs qui m'ont demandé ce week-end quoi dire à leurs enfants, à leurs élèves ce matin. Et c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement compliquée. Alors il y a une intervention tout à fait intéressante dans La vie des idées de François Héran à ce sujet, qui a été publiée sur cette question et qui montre que les valeurs de liberté d'expression, de laïcité, ce sont des valeurs extrêmement précieuses, mais extrêmement complexes aussi dans leur application, et qui demandent une grande sensibilité et une grande subtilité.
Oui, c'est des questions évidemment très difficiles. Werner Zettelmeyer, comment ça se passe du côté de l'Allemagne ? Comment fait-on pour inculquer les valeurs de l'Allemagne à ses élèves primo-migrants ?
Je pense qu'il y a déjà une différence importante entre la France et l'Allemagne, puisque le concept de laïcité français, à la française, ne peut pas être transposé dans le cas allemand. Mmh. Le fait religieux ou la religion ou les religions sont présentes au sein de l'établissement scolaire allemand, car l'enseignement de la religion est une matière obligatoire, en tout cas jusqu'à l'âge de 14 ans, obligatoire pour tous les enfants. Il est possible d'obtenir une dispense à la demande des parents, mais dans ce cas, il y a un enseignement éthique, un enseignement moral. En français, on dirait un enseignement, comme un petit peu ce qui existe en France, qui vient à la place de l'enseignement religieux. Il y a aussi, pour l'Allemagne, des tentatives de former les enseignants capables d'enseigner le catéchisme, si j'ose dire, pour les pas le catéchisme chrétien, bien sûr, mais un enseignement religieux pour les enfants musulmans. On forme donc des enseignants qui soient capables, forment dans les facultés allemandes des enseignants capables d'enseigner l'islam aux jeunes. Mais ceci, bien sûr, ne suffit pas. L'enseignement ou la transmission des valeurs, c'est l'affaire de tous les enseignants, mais pas seulement les enseignants. C'est aussi, il faut garder ou maintenir le contact avec les parents, les sensibiliser à ces questions. Il y a aussi, bien sûr, les associations sportives, par exemple, tout ce qui est parascolaire ou extrascolaire joue un rôle très important dans la transmission de ces valeurs.
Oui, c'est un ensemble.
Et donc, on a plutôt une approche, les enseignants seuls, d'abord, comme en France, sont démunis très souvent. On leur demande trop, ils ont déjà beaucoup de travail et il y a un manque de moyens, certains, et il y a un manque de formation. Et donc, il faut là, certainement, avoir une approche beaucoup plus globale et ne pas laisser l'école seule avec ce travail immense et gigantesque, la transmission des valeurs.
On était avec vous, Werner Zettelmeyer, et vous, Maïté Narmaniager-Roucher, autour de cette question de l'éducation pour les enfants migrants dans cette journée spéciale sur France Culture, Émancipation Générale, les combats pour l'éducation, direction la Suède.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nourola est là depuis un peu plus de 6 mois et il progresse rapidement. Très souvent, ils ont en eux une grande force qui les fait avancer. Et souvent, cela fait des mois, parfois des années, qu'ils ne sont pas allés à l'école. Et ils ont un grand désir d'apprendre. C'est quelque chose de très positif pour moi en tant qu'enseignant. Le collège est très bien ici en Suède. Je vais à l'école à 7h le matin et je rentre à 4h l'après-midi. Je suis avec mes copains. Je me suis fait des copains suédois aussi. Les écoles sont mieux en Suède. Je dirais qu'au final, ce qui est bien, c'est que tous ces jeunes qui viennent d'Iran et d'Afghanistan, avec leur volonté, leurs connaissances, qui ont surmonté tellement de difficultés pour venir ici, Ils n'ont qu'une chose à l'esprit, étudier.
Voilà, on va s'intéresser à ce modèle éducatif suédois pour les enfants migrants. On va essayer d'en faire un bilan et voir si peut-être aujourd'hui il serait menacé. Bonjour Véronique Simone.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Uppsala. 2015, la Suède accueille 160 000 réfugiés, un peu plus, principalement de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, et parmi eux, 70 000 sont des mineurs. Il faut dire que dans le cas suédois, dont on a régulièrement loué l'efficacité, la pertinence, c'est que ce qui a permis de bien accueillir ces enfants migrants et de bien les intégrer dans l'école, c'est qu'il y avait déjà un cadre préexistant. On avait déjà des mesures spécifiques qui avaient été mises en place, notamment à destination de ces immigrés qui venaient d'ex-Yougoslavie. C'est aussi cela qui a fait le succès, même si on va voir que peut-être des choses sont améliorées, mais qui a fait le succès de cette intégration à la suédoise pour les élèves.
Oui, on a quand même été un petit peu pris de court par cet afflux quand même très très important. La Suède, c'est un pays de 10 millions d'habitants. Mais il y avait déjà des signes à partir de 2014, et donc l'Agence nationale pour l'éducation avait déjà commencé à s'intéresser en particulier à la meilleure manière d'inclure ces élèves, sachant que nous, on fait un peu la différence entre les primo-arrivants et les élèves allophones, parce qu'on a des enfants qui sont nés en Suède et qui ne parlent pas le suédois, parce qu'on ne parle pas dans leur famille, parce que leurs parents n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre. Donc il y avait déjà des projets pour améliorer en particulier le matériel qu'on appelle ici de cartographie, d'évaluation des connaissances préalables des élèves qui nous arrivaient, en ce qui concerne en tout cas les plus âgés. Donc il y a eu tout un gros effort de fait avec des universitaires. Je faisais partie de groupes de recherche quand on a commencé à élaborer ce matériel. Donc des universitaires en coopération avec des enseignants à tous les niveaux de l'école.
Véronique Simon, pardon, j'ai tout à l'heure écorché votre nom, Véronique Simon. L'une des spécificités peut-être du système allemand, dont vous avez nuancé, non pas l'efficacité, mais vous nous rappelez à juste titre qu'il a fallu quand même intégrer cette nouvelle vague et que ça n'a pas été sans difficulté. Mais l'une des spécificités de ce modèle, c'est que les enfants peuvent poursuivre un enseignement dans leur langue maternelle. C'est une loi qui a été mise en place, une loi sur les langues minoritaires qui avait été votée en 2009. Mais tout cela n'est pas sans condition. D'abord, il faut faire une demande. C'est seulement quelques heures par semaine. Vous nous expliquez un peu ce système qui est particulier. Est-ce que ça représente en termes de chiffres aussi?
Alors, c'est très particulier à la Suède, mais c'est un système qui existe depuis longtemps parce que déjà dans les années 60, on avait une immigration assez importante qui venait d'un de nos voisins, de la Finlande, qui était en difficulté économique. Et puis, ça a commencé à se structurer un petit peu pour devenir une loi. Alors, faut pas confondre, il y a deux choses différentes. Une loi sous condition, c'est-à-dire que s'il y a dans une commune, dans une municipalité, 5 enfants qui parlent une autre langue que le suédois, que cette langue est pratiquée à la maison, que les parents en font la demande, ou dans le cas d'enfants de plus de 16 ans, l'élève lui-même, et si on a une personne qui est apte à enseigner cette langue, effectivement, la commune est tenue de donner un enseignement d'environ une heure par semaine à ses élèves, quelle que soit la langue. Il y a environ 200 langues qui sont enseignées comme ça en Suède. Donc, on avait déjà sur place, c'est vrai, ce genre de structure, de bienveillance aussi à partir des années 90, en particulier vis-à-vis du plurilinguisme, des chercheurs qui avaient souligné l'importance aussi de continuer à développer sa langue maternelle parallèlement au suédois. On avait donc une compétence aussi qui nous a servi à soutenir les élèves qui sont arrivés donc ayant majoritairement comme langue le pashti, le dari, l'arabe, entre autres, dans leur scolarité, et ceci à partir de la première année de l'école.
Mais il y a beaucoup de débats, Véronique Simon, sur justement en Suède, et y compris dans le monde de l'éducation, pour savoir s'il faut justement enseigner les langues maternelles aux élèves migrants ou pas, ou s'il faut vraiment se fixer exclusivement sur le suédois. Vous vous situez comment dans ce débat ?
Moi, je suis complètement pour que pour ce genre d'enseignement, pour le plurilinguisme, scientifiquement, c'est prouvé aussi qu'un élève qui continue à pratiquer sa langue maternelle et qui en plus la voit valorisée parce que c'est une matière scolaire, c'est-à-dire que c'est une matière scolaire au même titre que l'espagnol, les maths, l'anglais, etc. que ça favorise l'inclusion de l'enfant. Il y a aussi un autre élément, puisque j'ai déjà un peu parlé de ces familles où les parents, tant qu'ils sont demandeurs d'asile, n'ont pas accès à un enseignement en suédois, sauf par le biais d'associations. Ça évite aussi le fait qu'il y ait un clivage pour l'enfant entre son monde de l'école, où il est quand même environ, entre, ça dépend des âges, mais entre 5 et 8 heures par jour, et la famille. Ça permet aussi, parce que il faut, depuis 2011, il y a eu une réforme de cet enseignement des langues maternelles, où il est également inclus une comparaison entre la langue et bien sûr la culture, parce que la culture, ça va avec la langue, maternelle et le suédois et la société suédoise.
Peut-être un tout dernier mot, Véronique Simon, on arrive presque au terme de cette émission, mais il me semble que c'est important parce qu'on a eu ces dernières années en Suède une percée très importante de l'extrême droite, des démocrates de Suède, un parti anti-immigration. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on a une montée en puissance des débats autour de l'école à la faveur, à la défaveur de la montée en puissance de cette extrême droite? Est-ce que vous sentez que ça devient un espace de bataille politique?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'écoutais mes collègues tout à l'heure qui parlaient de systèmes plus ou moins centralisés. En Suède, le système éducatif est décentralisé. On a un ministère de l'éducation, on a une agence nationale de l'éducation. Il y a des règles à suivre. Mais ce sont les municipalités qui décident d'un certain nombre de choses et qui aussi tiennent les finances. Mmh. Or, nous avons en particulier dans le sud de la Suède au moins 3 municipalités qui sont passées aux mains de ce parti que j'appellerais populiste, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ont réussi à plus ou moins tourner cette loi, ces droits, en particulier enseignement en langue maternelle, en réduisant le budget. Et il est également sûr qu'il y a depuis quelque temps un certain nombre de durcissements des règles concernant l'éducation pour les élèves primo-arrivants ou pour les élèves allophones de la part du ministère de l'Éducation pour plaire à un électorat qui a tendance à écouter les partis populistes. I once had a boy and a girl of my own. I had to be going, and I left them alone. I went on my way, and out of their sight. I think of them every day, and in my visions at night. Please save them, little children, 'cause they never heard nor. Relieve them from their burden, so they might have some fun. May the howling day here. Merci beaucoup à Véronique Simon qui était à l'instant avec nous par téléphone, qui est maître de conférence à l'université d'Uppsala. Et un grand merci à nos deux invités, Werner Zettelmeyer et Maïtena Armagnac-Roucher, nous avoir éclairés autour de ces enjeux sur la question de l'école pour les enfants migrants dans le cadre de cette journée spéciale sur France Culture qui va se poursuivre dans un très court instant. Mais d'abord, on retrouve Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et Brice qu'on retrouve par téléphone, reconfinement oblige. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et la rivalité, Brice, entre Washington et Pékin a pris un tour plus idéologique ces derniers mois à l'occasion de la lutte contre le coronavirus. Pékin exploite ses succès sur ce front.
Et oui, parce que le bref moment de l'hégémonie américaine est désormais derrière nous. Les États-Unis observent avec inquiétude la montée en puissance de la Chine sur tous les plans, économiques, technologiques et militaires. Mais ce qui les préoccupe le plus, c'est peut-être la concurrence que le modèle politique chinois, autoritaire et centralisé, oppose au leur, pluraliste et libéral. La manière dont la Chine a réglé le problème du coronavirus, pourtant né sur un marché de Wuhan, impressionne le monde entier. En 10 jours, les autorités ont testé les 11 millions d'habitants de la ville, le virus y est éradiqué, Pékin brandit ce nouveau succès comme une preuve de la supériorité de son mode d'exercice du pouvoir. En face, la manière chaotique dont l'administration Trump a traité la crise sanitaire peut en effet servir de contre-exemple. Le virus a déjà tué 236 6 000 personnes aux États-Unis. Il ne faut pas se laisser abuser par la propagande de Pékin, écrit Yuan Yuan Hang, un professeur de Ann Arbor dans le Michigan. D'abord, la Chine n'est pas le seul État à avoir triomphé du virus. Plusieurs autres pays ont obtenu des résultats encore plus spectaculaires. Or, beaucoup d'entre eux sont d'authentiques démocraties. La Nouvelle-Zélande, 25 morts. Taïwan, 7 décès seulement. La Corée du Sud, 466. Ensuite, même si la Chine connaît un revival autoritaire avec Xi Jinping, le décollage économique spectaculaire de son pays, du pays qu'il dirige aujourd'hui, doit beaucoup à la libéralisation déclenchée par Deng Xiaoping et poursuivie par ses successeurs. Deng, je cite, a neutralisé les périls de la dictature en injectant dans sa bureaucratie des caractéristiques démocratiques, écrit Yuan Yuan Hang. Quant à la démocratie américaine, elle sort en bien triste état de 4 années de trumpisme et elle présente aujourd'hui des traits illibéraux. Les caractéristiques autoritaires et monolithiques du pouvoir chinois lui viennent de ses origines révolutionnaires. Mais ce que Pékin présente comme un avantage, cette capacité à mobiliser l'énorme appareil du parti unique pour encadrer la vie économique et sociale, présente aussi des faiblesses. Les politiques sont menées sur le mode des fameuses campagnes maoïstes, mobilisant toutes les ressources en vue d'un objectif à atteindre à tout prix. Concentrer nos forces pour parvenir à de grandes choses, dit Xi. Mais pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés, nombre de responsables locaux sont tentés de falsifier leurs résultats. En outre, ce type de campagne nécessitant des mesures extrêmes a tendance à créer de nouveaux problèmes mal perçu sur le moment.
Et donc, Brice, il serait erroné donc de considérer la rivalité entre les États-Unis et la Chine sous l'angle d'une concurrence entre démocratie libérale et autocratie néo-communiste.
Eh bien, ce n'est pas l'avis de Christopher Lane. Dans un article qui vient de paraître dans Foreign Affairs, cet universitaire américain appartenant au courant néo-réaliste met en garde contre la tendance récente du département d'État à surcharger d'idéologie la montée des tensions entre Pékin et Washington. La Chine n'est pas l'URSS, elle ne cherche pas à exporter le communisme, mais, écrit-il, sa trajectoire de superpuissance va provoquer dans le monde un regain d'attraction pour l'autocratie. Comme beaucoup d'autres commentateurs, Lane dresse un parallèle avec la pente fatale qui mena la Grande-Bretagne et l'Allemagne vers l'issue fatale de la guerre de 14 en somnambule, selon l'expression de l'historienne Margaret Macmillan. Comme les Anglais alors, les Américains voient leur rival chinois accéder au rang de compétiteurs irrésistibles et ils plaquent sur cet antagonisme les récents souvenirs de la guerre froide qui les a opposés à l'URSS. Or, la situation n'a rien à voir, dit-il. Les États-Unis et l'URSS ont évité l'affrontement militaire pour deux raisons principales. Un, la dissuasion nucléaire. Tout conflit armé entre les deux puissances aurait presque inévitablement débouché sur l'anéantissement mutuel. La guerre était donc impensable. Deux, leurs zones d'influence respectives sur le terrain européen étaient clairement délimitées et respectées de part et d'autre. Il en va tout autrement sous nos yeux entre Washington et Pékin. La guerre n'est pas inimaginable. La miniaturisation et la sophistication des armes nouvelles peut provoquer une guerre nucléaire limitée. Le terrain d'affrontement, en outre, est le sud-est asiatique où la Chine entend établir son hégémonie en évinçant les États-Unis. Les points chauds sont les deux Corées et Taïwan. En outre, les références historiques des Chinois ne sont pas celles des Américains. Là où ces derniers s'en rapportent aux thèses géostratégiques de Mackinder, selon qui la puissance qui domine le heartland eurasiatique obtient forcément l'hégémonie mondiale, Pékin pense d'abord à prendre sa revanche sur qu'ils appellent le siècle d'humiliation, celui que lui ont infligé les Britanniques et les Français dans la deuxième moitié du 19e siècle et les Japonais dans la première moitié du 20e. La ligne Deng Xiaoping, modernisation et ouverture, consistait à s'intégrer à l'ordre mondial voulu par les Américains en vue de parvenir à une prospérité qui permette aujourd'hui à la Chine d'acquérir une puissance militaire considérable. Mais les Américains n'ont pas compris qu'elles n'avaient rejoint le système mondial pas pour y contribuer en acceptant les règles, mais dans le but de le défier de l'intérieur.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.